Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Aujourd'hui, nous allons parler des élections municipales, plus précisément
Du premier tour.
du premier tour, effectivement. Donc, cette vidéo sera diffusée avant le second tour. Alors, aussi, je précise que lorsque nous enregistrons, nous sommes le mardi après-midi, donc nous avons déjà pas mal d'informations sur comment le second tour va se dérouler, c'est-à-dire qui se désiste pour qui fait alliance avec qui. Il y a encore quelques inconnus à cet
Laissez-moi
égard.
deviner là, laissez-moi deviner. Donc, il est complètement interdit toujours de s'allier avec le Rassemblement national.
Oui, ça va de soi.
Mais les déclarations avec lesquelles on ne s'alliera jamais avec LFI à partir de maintenant et tout, ça c'était des paroles verbales.
Oui, non mais ça vaut 20 minutes à chaque fois, hein. À peu près, c'est...
Ça dure le temps que le journaliste arrive devant le micro, quoi.
Oui, ça dure juste le temps de le dire,
Ah bon,
sinon
c'est bien.
derrière...
Je suis content parce que pour qu'on puisse juger une politique, des politiques, il faut quand même qu'il y ait une certaine constance dans l'action,
Oui,
quoi.
tout à fait. Mais on va tout à fait parler de cette question-là. Donc, tout d'abord, il faut dire que les élections municipales, c'est des élections qui sont assez difficiles en général à analyser, pour deux grandes raisons, qui sont que d'une part, on cherche souvent à tirer des conclusions nationales de scrutins qui ont des réalités locales. Typiquement, si je prends une ville par exemple comme Béziers qui a élu dès le premier tour Robert Ménard avec plus de 60%, voilà, typiquement, c'est pas forcément la coloration politique de Robert Ménard qui fait que
Le
tous
fait
ces
qu'il
gens
soit un
votent
bon
pour lui,
maire.
mais c'est le fait que ce soit un bon maire. Et il y a
Voilà.
plein de villes comme ça où les gens, peut-être, ils votent à droite d'habitude et puis ils aiment bien leur maire qui est de
D'ailleurs, j'ai cru le
centre-gauche.
remarquer, une autre constante, si vous voulez, c'est que si le maire mettait une crèche dans sa mairie, il était réélu chaque fois avec 80% des voix, non?
Ça arrive souvent, oui. Ouais.
Donc, si vous voulez faire réélire, là, je dis ça à tous les radicaux socialistes et tout, mettez une crèche dans votre mairie et ça,
Oui.
vous serez réélu à chaque fois.
Oui, bien sûr. Personne dans la vie réelle ne prend ça comme un affront, même pas les populations immigrées ou
Musclé.
même les musulmans s'en fichent, voire même ils trouvent ça normal. Non, ça n'a jamais de répercussions négatives. Il y a que le Conseil d'État qui aime pas ça. Sinon, les citoyens,
Ah, il y a aussi
ils ont
le
pas de
truc que
problème.
un truc qui s'appelle les laïcs. Bien, oui. Des laïcs forcenés qui n'aiment pas ça du
Oui,
tout. Mais...
ça arrive, mais enfin, ils
C'est eux qui
représentent
portent
pas
plainte chaque
grand-chose.
fois,
Ouais.
mais.
Et l'autre raison, c'est que on a un effet loupe sur les grandes villes. Évidemment, on parle surtout de Paris, Lyon,
Bah, c'est là où c'est
Marseille,
politique.
voilà, Bordeaux, Toulouse, etc. Sinon, effectivement, les petits villages, on s'en fiche un peu. C'est-à-dire que 80% des communes élisent un maire sans étiquette. Et d'ailleurs, il y a aussi plein de communes qui n'ont qu'une seule liste qui est présentée. Donc là aussi, l'attrait pour les élections municipales, il est un peu limité. Quand vous savez déjà que la liste présentée va faire 100% des voix, vous n'avez pas forcément envie de vous déplacer. Et puis, il y a aussi on va dire, une variance qui est moins grande, c'est-à-dire un panel politique qui est moins grand que, par exemple, aux élections européennes ou présidentielles. En général, il y a en gros 4 ou 5 grosses forces politiques qui sont présentes. On va dire une force politique de gauche très radical, typiquement LFI, une force politique de gauche classique, PS ou écolo, une centriste, une de centre-droit et une de droite radicale, quoi, mettons. Donc ça fait en gros 5 forces politiques au global.
Pourquoi
Après,
vous dites pas comme tout le monde extrême droite?
parce que je refuse ce vocabulaire. Je refuse ce
Non, mais ça me fait
vocabulaire.
marrer parce que chaque fois on dit, je vous lisais Le Monde, l'extrême droite, mais il n'y a jamais d'extrême gauche.
Oui, non mais je refuse ce vocabulaire parce que très franchement, à la limite, je veux bien le comprendre à l'époque de Jean-Marie Le Pen quand c'était 15% des Français, on va dire, les plus à droite qui votaient pour le Front National.
Il était extrêmement drôle.
Oui,
Il
voilà, en
était
plus de
extrêmement
ça.
drôle, donc
C'est
pour
ça.
moi c'était amusant ça. Enfin, la plupart du temps, de temps en temps, il faisait des blagues qui étaient un peu douteuses, mais quand on fait de l'humour, ça marche pas à tous les coups.
C'est ça, il avait peut-être peur de son propre succès, donc de temps en temps il faisait exprès de se mettre une balle dans le pied. C'est la seule explication rationnelle que je vois à cela. La participation au niveau national est pas particulièrement élevée, elle est de 56%, donc plus élevée que celle de 2020 qui était de 45%. C'est normal, il y avait le Covid, etc. Mais enfin, elle est quand même moins élevée qu'en 2014, et globalement, on suit quand même une ligne de dépolitisation, de départicipation par rapport
Les maires ont de moins en moins de pouvoir aussi.
Les maires ont de moins en moins de pouvoir, bien sûr. On connaît peut-être de moins en moins les maires. Autrefois, on avait aussi des députés maires. Enfin, on pouvait cumuler des mandats, donc ça pouvait avoir un attrait plus, comment dire, plus important. Ça va avec le fait que les maires ont moins de pouvoir qu'avant. Donc voilà, il y a tout un tas de choses comme ça qui peuvent expliquer ce manque de participation. Je pense que les gens aussi, peut-être, en ont de Je sais pas s'ils en ont marre des élections, mais peut-être que par moment ils ont l'impression d'aller voter pour rien au final. C'est peut-être un sentiment qui est partagé dans une grande partie de la population. Donc voilà. Et puis en revanche, dans les grosses villes, particulièrement à Paris, Lyon, Bordeaux, Strasbourg et Nantes, la participation, elle, était en hausse par rapport à 2014. Donc là, on sent qu'il y a des enjeux dans ces villes-là qui sont perçus de façon plus importante. Alors commençons tout de suite par le plus gros, par Paris, Lyon, Marseille. Donc à Paris, c'était un scrutin évidemment très surveillé. Pas mal de doutes étaient permis d'après les différents sondages. Dati avait une réelle chance de remporter la mairie. Elle n'était pas forcément favorite devant Emmanuel Grégoire, le successeur de d'Anne Hidalgo, mais quand même les résultats des élections du premier tour suggèrent que l'éventualité Dati à la mairie de Paris est quand même assez peu probable. Hein. On a Emmanuel Grégoire qui est à 38%, Dati à 25%, on a déjà Chikirou à 12% alors qu'elle a quand même fait une campagne pas terrible, c'est le moins qu'on puisse dire, Pierre-Yves Bournazel à 11,3% et Sarah Knafaud à 10,3%. Et derrière encore on a Thierry Mariani qui a fait une campagne affreuse.
Il n'a pas fait de campagne du tout.
Non, voilà, il n'a pas fait de campagne du tout,
ouais. C'est pas beaucoup fatigué.
Ouais. Et alors, pour vous, est-ce que Rachida Dati a vraiment une chance de gagner? Est-ce que ça vaut le coup de se battre, quoi?
Pour moi, si vous voulez, la question essentielle, c'est dans des endroits où il y a des gens un petit peu bizarres qui risquent d'être élus, est-ce qu'on va passer dans le vote, on va passer de 54 à 64, quoi. Parce que si vous faites pas une hypothèse d'une classe qui n'a pas été votée, tous ceux qui avaient envie de voter ont voté, là. Les gauchistes ont voté, tout le monde a voté. Donc, s'il y a 10% de plus qui viennent, je pense pas qu'ils voteront, ils iront voter LFI, quoi. C'est donc la seule chance, c'est qu'il y a une très grosse, les gens sont dit, là, pas la peine de voter au premier tour, je voterai au deuxième, quoi.
Ouais.
C'est la seule possibilité, c'est-à-dire qu'il y a un changement de l'échantillon représentatif.
Ouais. Mais est-ce qu'on risque pas d'avoir exactement l'inverse? C'est-à-dire des gens qui se disent, bon, mon candidat, celui que je voulais absolument, n'est pas présent au second tour, ou s'est retiré.
Je crois pas que les élections au premier tour, vous savez, on choisit, au deuxième tour, on élimine, quoi.
Ouais, c'est...
Donc, je crois que, là, si les gens ont pas envie de voir Paris rempli de logements sociaux et que Paris devienne un petit peu Saint-Denis, quoi, il ferait bien d'aller voter la prochaine fois.
Ouais. Alors, c'est un peu le sentiment général, autour de Rachida Dati. C'est-à-dire que il y a assez peu de gens, qui sont particulièrement fans de Rachida Dati. Tout le monde dit que c'est une personnalité assez critiquable, qui a quand même des casseroles aux fesses. Elle risque d'être inéligible en octobre-novembre. Cependant, il y a quand même pas mal de gens qui préféreraient avoir Rachida Dati plutôt qu'Emmanuel Grégoire à la mairie. Donc, peut-être qu'ils auront.
Peut-être cela, ils auront peut-être intérêt à aller voter.
Peut-être qu'ils n'ont pas voulu récompenser Rachida Dati, qui en plus de ça n'a pas fait une campagne exceptionnelle en votant pour elle au premier tour, mais se dirait au second, je vais quand même y aller parce que
elle
préfère ça.
Elle n'a pas fait une campagne très, très agressive, elle a fait une campagne de marché, gentille, alors que c'était une personnalité d'habitude qui avait une langue bien pendue et qui pouvait taper aussi. Là, je m'attendais à ce qu'elle tape plus, et elle a assez peu tapé, quoi.
Oui, effectivement, on a l'impression qu'elle est un peu diminuée, peut-être par rapport à ses affaires judiciaires, qu'elle n'a pas envie de...
Alors qu'est-ce qui se passe si par hasard elle est élue et qu'elle est... C'est le numéro 2 qui devient maire?
Alors, si elle est inéligible, j'ai regardé cette question, le Conseil de Paris doit élire un nouveau maire. Donc, il n'y a pas de nouvelles élections, mais il y a
un nouveau maire. C'est-à-dire que c'est les conseillers qui éliront le maire, quoi.
Tout à fait, voilà.
Donc, c'est, donc, à ce moment-là, ça veut dire, qui est le numéro 2 sur sa liste?
Qui est numéro 2 sur sa liste? Je ne sais même plus. J'ai un trou de mémoire. Je l'ai su.
Je pose des questions comme ça bêtement, mais.
Mais oui, ça risque forcément d'être le numéro 2, c'est la logique. Mais il peut y avoir une surprise après. Ensuite, évidemment, tout le monde a parlé de la campagne de Sarah Knafo et de son résultat. Alors, elle était mesurée à environ 12, voire 13,5% dans les tout derniers sondages avant l'élection. Elle réalise au final 10,3%. On a eu pas mal d'heures avant de savoir si elle était qualifiée au second tour ou pas. Certains pensaient qu'elle le serait pas. Alors, c'est pas un score absolument mauvais, mais qui est un peu en dessous des attentes, d'une part, et qui, d'autre part, montre pas une très très grosse progression, je trouve, par rapport à d'autres élections, par rapport à des municipales, oui, mais par rapport à 2022, typiquement, Éric Zemmour avait réuni 8,16% des voix à Paris, avec une campagne, une fin de campagne un peu laborieuse. Marine Le Pen avait réuni 5,5% des suffrages, donc 4 points de plus que Thierry Mariani. Donc on aurait pu penser que au moins ces 4 points auraient dû logiquement aller chez Sarah Knafo, qui aurait dû au moins faire 12% selon cette logique. Donc elle avait quand même une base électorale existante pour faire 12 à, disons, peut-être jusqu'à 15%, et elle dépasse difficilement les 10.
Oui, est-ce que c'est intéressant ce que vous dites, la coup du Front National là, qui était à 5,5 ou... contre 1,5 cette fois-ci, ça veut dire qu'il y a peut-être des troupes de réserve des Front National qui vont aller voter au deuxième tour pour ne pas avoir c'est pas impossible. C'est-à-dire que c'est peut-être les troupes de réserve, c'est plutôt du côté du Front National que de partout ailleurs, quoi.
Ouais, c'est une possibilité. Alors, pareil, une autre échéance, il y a pas si longtemps, à Paris, c'était donc aux élections européennes de 2024. C'était Bardella qui avait fait 8,5% et Marion Maréchal avait fait à peu près 6. Ouais, donc, ça faisait une base électorale de 14,5% pour le ticket RN Reconquête, quoi. Et donc, Sarah Knafo, j'aurais pensé, honnêtement, qu'elle serait capable au moins de mobiliser cette base-là, et bah visiblement ça n'a pas été le cas, malgré une campagne qui, on va dire, était objectivement bonne sur le plan de la communication, qui a été assez médiatisée en plus, mais
ça a dû coûter assez cher.
Ça a dû coûter assez cher, oui, je pense.
Parce que j'ai pas l'impression que Mariani il ait dépensé un sou, mais là j'ai l'impression qu'il y a des sous qui ont été dépensés, quoi. C'est parce que on l'a vu partout, quoi.
Ouais, ça c'est sûr, on l'a vu partout, et beaucoup de journalistes en ont dit beaucoup de bien, et visiblement ça n'a pas suffi. Donc ça montre,
à mon
aussi...
avis, ça lui a fait perdre des voix.
Ah, c'est possible, en tout cas ça montre que
si les Duhamel disent du bien de quelqu'un, vous savez, vous vous sentez obligé de voter contre, quoi. C'est presque une
oui,
raison,
effectivement, il y a un côté, c'est un peu louche. Qu'est-ce qu'on essaye de me donner, mais ça montre qu'effectivement que les médias sont plus tellement prescripteurs du vote.
Ensuite, les médias officiels, oui.
Ensuite, nous avons la ville de Lyon, où Jean-Michel Aulas, il y a quelques mois, était donné quasiment gagnant au premier tour dans certains sondages, entre 45 et 50% des voix. Et au final, il termine à 37, juste derrière le maire sortant écolo Grégory Doucet. Viennent ensuite la liste LFI avec 10%, puis la liste UDR-RN avec 7%. Alors là aussi, c'est quand même un gros effondrement du bloc central. J'ai même pas évoqué la campagne de Bournazel dernièrement, c'est dire à quel point on en a quelque chose à faire. Mais là, c'est quand même un énorme échec, parce que c'était quand même un ticket LR plus Renaissance, donc bloc central, et visiblement, il n'aura pas les réserves de voix nécessaires, monsieur Aulas, pour...
Sauf à ce que les gens aient voté.
Sauf à ce que les gens aient voté massivement, effectivement. Ouais.
Vous avez les chiffres de la tension à Lyon, non ?
Non, j'ai pas les chiffres de l'abstention, je dirais que ça devait être à peu près entre 40 et 45%, quelque chose comme ça.
Donc, 40%, je pense. Connu, c'est est-ce que les personnalités très controversées qui pourraient passer à gauche vont déclencher un vote Madame Hidalgo avait été élue parce que personne n'était allé voter, je ne sais pas si vous vous souvenez.
Oui, bien sûr, 2020, c'était un scandale d'avoir organisé des élections dans ce contexte-là, bien sûr. Ouais. Ouais. Et campagne assez décevante pour Jean-Michel Aulas, qui est aussi à réaliser des débats télévisés absolument abominables. Il a l'air complètement sénile, il dit n'importe quoi. Dernièrement, à Lyon, justement, il y a eu l'affaire avec le meurtre de ce militant nationaliste, donc Quentin Doranc. Quand on a posé la question, c'était le jeune Duhamel sur France Inter qui avait posé la question à Jean-Michel Aulas de savoir ce que ça lui faisait, de savoir qu'il y avait ce type de violence politique dans sa ville. Il avait répondu quand même sur les embouteillages à Lyon. Enfin, je veux dire, le type était complètement à côté de la plaque. Donc, à mon avis, c'est le genre de déclaration qui n'a pas dû être aussi.
Si vous voulez faire élire un type comme Biden aux États-Unis qui était complètement gâteux et tout, vous ne le montrez pas au public. vous le laissez dans sa cave et vous vous le sortez une fois toutes les 36 mois. Donc, je sais pas, c'était d'abord une idée idiote de mettre un gars qui est gâteux, mais ensuite, vous le montrez pas au reste du monde, quoi. Peut-être il voulait aller parler, lui. Il était peut-être content d'aller parler, j'en sais rien.
Je sais pas.
C'est l'ancien président de l'Olympique Lyonnais.
C'est l'ancien président de l'Olympique Lyonnais, en plus à la grande époque. Donc, je peux comprendre qu'il y ait plein de Lyonnais qui aient une bonne image de Jean-Michel Aulas. Moi-même, j'en ai plutôt un bon souvenir. Mais bon, là, en l'occurrence, il a pas l'air apte vraiment à gérer une ville de cette taille-là. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression qu'il est complètement à côté de la plaque. Et en plus de ça, un mandat de maire, c'est quand même 6 ans, quoi. Donc, je me dis, si déjà comme aujourd'hui il est comme ça, dans 6 ans, je préfère pas l'imaginer. Ensuite, il y a Marseille. Alors Marseille, c'est une assez grosse surprise. Enfin, grosse surprise. C'est en tout cas au-delà encore de certaines espérances du Rassemblement National. Ça a été une campagne très intéressante que j'ai pas tant suivi que ça parce que bon, j'ai à peu près jamais foutu un pied à Marseille, mais campagne très intéressante. Donc Benoît Payan, maire socialiste sortant, est à 35%. Franck Alizio, candidat RN, à 35% aussi, et Martine Vassal, donc candidate divers droite soutenue par le centre aussi, fait 12,5%, et tout comme Sébastien Delogu, donc de la France Insoumise. Ensuite, on a toutes les petites listes qui valent 1%, 1,5%. Alors là, quand même, c'est un énorme exploit venant du Rassemblement National.
Oui, disons... Bah, il faut dire que Marseille est une ville où il y a des problèmes de sécurité, ce qui est une... Ouais. Une litote, une tout à fait remarquable. C'est-à-dire qu'en effet, si j'étais Marseillais, moi, ça finit par m'agacer et que les socialistes n'ont rien fait, puisque ils s'intéressent pas du tout au problème de sécurité, parce que ça leur aliénerait le tiers de leur électorat, quoi.
C'est clair. Il y a bien une ville qui bénéficie de ce phénomène-là, c'est Aix-en-Provence, qui est un peu la ville des réfugiés de Marseille. Ouais. Donc c'est un peu toute la bourgeoisie marseillaise qui en a marre d'avoir des maires corrompus, etc., et d'avoir une ville où l'insécurité grandit de plus en plus. Et qui se dit bon bah je vais à la ville d'à côté, quoi, où il fait quand même bon vivre, et par conséquent Aix-en-Provence bénéficie beaucoup de cet effet là et si on reprend par exemple les résultats à Marseille en 2020, on peut que saluer la campagne réalisée par Franck Alizio, qui est associé au passage à Stéphane Ravier, qui a été candidat au départ et qui s'est rangé derrière la candidature Alizio.
Sénateur de Marseille,
qui avait été candidat d'ailleurs à l'élection de 2020. En 2020, il avait réalisé 19,5%, ce qui était déjà pas mal, hein, pour le RN à Marseille. Le RN a donc gagné 15 points en 6 ans et avait complètement effacé le leadership à droite de Martine Vassal, puisque Martine Vassal avait fait à l'époque 22%, donc ils ont divisé son score à peu près par deux, quoi. Et cette Martine Vassal, encore une fois, ça montre, comme à Paris, comme à Lyon, l'effacement progressif du bloc central. C'est encore une fois une candidature échec.
Ce qui est intéressant, c'est que dans le fond, les Républicains, on sait plus où ils sont, quoi. Eux non plus d'ailleurs.
Les Républicains sont assez présents dans les petites villes, villes moyennes, on va dire entre 10 et 30 000 habitants.
Ils ont encore des tas de maires élus, mais au niveau national, si vous voulez, on sent très bien quand les Républicains, ils se disent bon, mais c'est des macronistes honteux, quoi. Ça sert à rien, quoi. C'est vraiment un parti qui sert à rien.
Ouais, c'est clair. Et particulièrement les macronistes, donc Renaissance, ils avaient réussi quand même à faire quelques scores intéressants en 2020, sans toutefois vraiment réussir à s'implanter comme il faut. Et alors là, c'est encore pire. C'est-à-dire que là, on a Gabriel Attal qui nous dit, c'était quoi cette ville? Ils ont réussi à avoir un bon score dans la ville de Bourg-de-Péage. J'ai réagi de la même façon que vous. Je sais même plus où c'est. Mais si jamais il y a des habitants de la ville de Bourg-de-Péage qui nous regardent, sachez que vous avez fait n'importe quoi, puisque vous avez placé une liste Renaissance.
C'était peut-être un type bien qui était à Renaissance par hasard.
Ça peut arriver. Il y a peut-être des gens bien chez eux. Mais enfin voilà, il y a quand même pas beaucoup de villes dans lesquelles ils ont réussi à briller. Et à chaque fois, honnêtement, je me serais dit que Jean-Michel Aulas, c'était une valeur sûre, mais visiblement même pas. et partout ailleurs, c'est quand même un échec. Il y a que au Havre où il y a comment s'appelle Édouard Philippe qui arrive à bien se maintenir à 43%. Vraisemblablement, il devrait gagner de nouveau la mairie du Havre. Enfin, même 43%, c'est pas non plus.
Il n'a pas réussi le premier tour. Hein. C'est pas Cannes. Hein.
Non, c'est pas Cannes. Cannes, vous avez raison de mentionner Cannes parce que David Lisnard y a été réélu avec 81% des voix. Donc ça rappelle des scores qu'on peut voir en Afrique, hein.
Ou dans le bon vieux temps, l'Union soviétique.
Voilà, absolument. C'est un score digne de cela. Et puis il y a plein d'autres candidats RN aussi, on va en parler d'ailleurs, qui ont été réélus dès le premier tour. Le RN conserve beaucoup de villes, donc là-dessus c'est une belle performance. Alors je voudrais parler du Sud-Est, puisqu'on a commencé déjà à évoquer la ville de Cannes par exemple. Le Sud-Est, c'est vraiment un endroit très particulier. Il y a beaucoup de gens qui ont très très bien voté dans le Sud-Est. On note la ville de Toulon par exemple, où Laure Lavalette du RN est arrivée nettement en tête avec 42%, donc c'est un excellent score, mais malheureusement ne bénéficie pas d'énormément de réserves de voix pour le second tour. Donc si le candidat LR se désiste pour la liste d'hiver droite là-bas, la candidate RN sera en difficulté. C'est une grosse percée parce qu'en 2020 le maire sortant LR avait quand même raflé 61% des voix au premier tour. Donc c'est quand même pas évident de désinguer ça. On peut pas parler du Sud-Est aussi et faire l'économie de la ville de Menton, où la candidate RN Alexandra Masson est arrivée nettement en tête avec 36% des voix devant la liste de Sandra Paire et Louis Sarkozy. Louis Sarkozy qui réunit que 18% des voix malgré quand même une aide médiatique assez importante. Et alors d'ailleurs, le fils de l'ancien président préconise et va avoir une alliance des listes divers droite contre le RN. Donc j'espère que le RN va réussir à résister. Parce que
là encore, il va falloir que les mentonnés sortent le dimanche à la place d'aller faire un pique-nique ou j'en sais rien. Quoi.
Voilà, exactement. Je sais que c'est très tentant, surtout j'imagine qu'il doit faire très beau en ce moment à Menton, mais faut faire l'effort, aller voter le matin, comme ça le reste de la journée vous êtes tranquille, quoi. On note la ville de Nice aussi, très intéressante, où Christian Estrosi, maire sortant, est largement devancé par Éric Ciotti d'environ 12 points. Le maire sortant en appelle d'ailleurs à une union avec l'EPS, PCF, Écologie Les Verts, les radicaux, Place Publique, etc. pour battre Éric Ciotti. Alors visiblement, d'après les dernières informations, la liste des écolos qui s'étaient hissés au second tour va se maintenir malgré des assez grosses pressions qui viennent un peu partout. Donc vraisemblablement, Éric Ciotti a des très grandes chances de remporter la mairie de Nice. Nous avons aussi à Cagnes Brian Masson du RN qui l'emporte dès le premier tour. David Racheline aussi qui conserve la mairie de Fréjus. À Cannes, on vient de le citer, c'est David Lisnard qui est réélu triomphalement avec plus de 80% des voix. Nous avons aussi...
Qui a créé son propre parti, qui est plus vraiment dans...
Oui, alors qui est au sein de son petit parti, qui s'appelle Nouvelle Énergie. Oui, c'est ça, Nouvelle Énergie. Mais Nouvelle Énergie qui est incorporée, il me semble, au sein des Républicains. Au sein des Républicains, ils aiment bien faire leur petit parti, comme Valérie Pécresse a le sien aussi. Enfin, bref, il y en a plein d'autres comme ça. Et alors, il y a une situation aussi qui est assez intéressante à Avignon, où la droite pourrait l'emporter si elle n'est pas trop idiote, mais malheureusement, je crois qu'elle l'est.
Je connais la droite d'Avignon, donc ça me paraît déjà
voilà,
parti, oui.
Puisque le candidat d'hiver droite, qui est un ancien journaliste d'ailleurs de France Télévisions, il me semble, arrive en tête avec 27% des voix, suivi par la candidate RN qui, elle, en a 25%, et viennent ensuite la liste PS à 20% et LFI à 19%. Alors ils se sont déjà entendus pour faire une fusion de liste. Et donc, si tout le monde se maintenait, le candidat d'hiver droite devrait logiquement l'emporter, mais là, en l'occurrence, on a une fusion de liste à gauche. Donc s'il n'y a pas de fusion de liste à droite et fusion de liste à gauche, malheureusement ça va être plus compliqué pour ce candidat. Et c'est comme ce que vous racontez à chaque fois, c'est la gauche fait 40%, la droite fait 60%, mais comme la gauche sait s'unir, elle remporte face à la droite, quoi.
Bah oui, donc ça fait 40 ans que dans toute cette région, Avignon, Carpentras et tout, on est gouverné par des gens de gauche alors que la population est à droite, quoi.
C'est ça. Et alors, par rapport à tout ce que je viens de citer dans le Sud-Est, comment vous, enfin, est-ce que vous avez une explication sur pourquoi le Sud-Est vote aussi bien quelque part?
Ben, si je voulais au moment de la Révolution française, c'est assez amusant. C'était resté des coins royalistes. Hein. Il y a eu après quand Napoléon est tombé et tout, il y a eu des nettoyages et tout. Donc alors que le Sud-Ouest a toujours été plutôt à gauche, plutôt radical
socialiste, ouais, tout à fait.
Et c'était aussi des endroits dans le Sud-Ouest où il y avait beaucoup il y a eu beaucoup de protestants et beaucoup d'albigeois, vous savez. Ouais. Donc il semble que le Sud-Ouest, le Languedoc, tout ça, c'est ça va plutôt à gauche, quoi.
Ouais. Il y a aussi le phénomène des réfugiés espagnols, tous les républicains.
Donc
il y a une grosse culture antifasciste dans le Sud-Ouest, ouais. Ouais, Toulouse, tout ça.
Il y avait les réfugiés italiens qui étaient mieux. Il y avait les frères Spanghero à Narbonne qui étaient des gens bien, quand même. C'est vrai, d'avoir avec les élections, mais par contre, au rugby, ils étaient lâchement bons. Il y avait trois frères, c'était remarquable. Donc, moi, si vous voulez, la façon dont je regarde ça, c'est... La Provence a toujours été un lieu de passage ouvert sur le monde. Si vous voulez, c'était dans le couloir rhodanien, donc vous alliez vers l'Italie, vous alliez vers le Nord. Les vins de Bourgogne, ils se vendaient en Belgique. Enfin, ça a toujours été un lieu de passage. Et puis, il y avait... Et assez entrepreneurial. Il y avait quand même beaucoup de...
Oui, c'est très commerçant.
Très commerçant, sûr. Beaucoup de... C'est là qu'il y avait les foires de Beaucaire. Enfin, c'était... Donc un monde ouvert et rarement replié sur lui-même et votant à gauche, quoi.
Je pense que c'est ce qui l'aide au-delà de la simple géographie qui est magnifique, mais c'est ce qui l'aide à être aussi touristique, c'est aussi sa culture commerciale, quoi.
Sa culture commerciale, les gens sont là, ils sont... Ouais. Alors que dans le Sud-Ouest, c'est beaucoup plus... local, c'est des donc si vous voulez, et des endroits qui ont souvent résisté très fort à Paris, même militairement, quoi. C'était donc il y a assez peu de rapport entre la classe moyenne en Provence et la classe moyenne en Gascogne, quoi.
C'est pas les mêmes peuples,
c'est pas les mêmes, donc je sais pas, c'est... J'avais lu une étude très très intéressante il y a longtemps, où les gens avaient essayé d'analyser les partis qui votaient à droite, territorialement, les géographies, et les géographies qui votaient à gauche et en France. Et ils remontaient à l'endroit où les Romains avaient mis des villes et des villages, c'était l'endroit où il y avait de l'eau, d'une bonne terre, du soleil, de l'agriculture, c'était facile, la zone était autosuffisante.
Oui.
Quand la zone était prospère et autosuffisante sur des voies de communication, etc., les gens votaient toujours à droite. Et puis quand c'était des endroits pourris, ou comme les Landes ou n'importe quoi, avant qu'on mette les pins, là, vous creviez de la malaria. Enfin, ils votaient toujours à gauche. Donc quand il y avait tous les éléments pour avoir une vie heureuse paysanne, hein, des communications, de l'eau, de la terre, une université, des choses, paf, les gens votaient à droite. Et puis quand on s'intéressait pas du tout à vous, paf, les gens votaient à gauche.
Très intéressant.
Et donc, il y a peut-être cet aspect-là qui explique la Provence. Oui. On n'est pas malheureux, sauf dans les Alpes de Haute-Provence, là, où vous crevez de faim. Mais sinon, sur la vallée, là, dans la vallée du Rhône, vous vivez bien, quoi. Alors qu'on a des tas de coins du Sud-Ouest qui étaient quand même drôlement isolés. Hein.
Ouais, c'est clair. Et puis, certains expliquent aussi, par exemple, le fait qu'il y a une culture pied-noir dans le Sud-Est. Enfin, c'est ce genre de choses qui peut amplifier encore ces phénomènes-là.
Qui peut amplifier ce phénomène, oui. Oui, c'est pas faux, ça. Il y en a beaucoup qui se sont arrêtés là, quoi. Mais ils n'avaient pas été très bien reçus à Marseille, mais enfin, ils sont remontés un peu.
Ouais.
Ils sont allés à Toulon, ils sont allés...
Mais c'est vraiment un phénomène très intéressant, parce que là ça ne fait que s'amplifier, mais déjà, il y a 10 ans...
On peut dire qu'un parti qui regrouperait... Allez, Marion, Ciotti et le maire de Cannes, là.
Lisnard.
Il ferait 100% dans la région, quoi.
Ah oui, je pense. Pas loin, ouais, pas loin.
Non, mais là, il n'y aurait même pas photo, quoi. Ce serait, ce serait pas la peine de se présenter, quoi. Parce que Marion, c'est le côté catholique. Ciotti, c'est le côté commerçant habile, et Lisnard, c'est le bon gérant, quoi. Donc, ouais. Ça vous dit, oui, j'ai tout ce que je veux, là. J'ai pas
effectivement,
besoin de
c'est un trio qui correspond très bien, en gros, à la droite du sud-est.
Le Rassemblement National qui gagne le nord, qui a des positions dans le nord de la France, c'est pas du tout le Rassemblement National de ce coin-là, quoi.
Absolument. C'est vraiment pas la même chose, ouais.
Non.
Ouais. C'est, à l'époque où il y avait Marion, il y avait vraiment beaucoup plus cette scission entre le RN du nord et le RN du sud.
Ah, oui, mais...
Le côté RN de Marine Le Pen, et RN de Marion, c'était vraiment
Mariani faisait partie de petit peu de
le RN du Sud est beaucoup plus alors libéral économiquement, conservateur, et le RN du Nord
est assez chrétien.
Oui, tout à fait, et le RN du Nord est beaucoup plus populaire, quoi. C'est vraiment ça.
Le RN du Nord, il a chassé sur les terres du Parti communiste, quoi.
C'est clair, c'est exactement ça. Il a vraiment remplacé les partis radicaux de gauche de l'époque, quoi, les partis communistes, etc. Alors, si on regarde ensuite au niveau national, mais tout en restant quand même sur les 20 plus grosses villes de France, ce qui est déjà un miroir des formats, hein, sur certaines sociologies, on peut analyser plusieurs choses. Alors déjà, la France Insoumise avait fait en 2020 7% des voix. Ils étaient souvent d'ailleurs alliés avec les écolos, parfois avec le PS. En 2026, ils réalisent 14% des voix, donc deux fois plus. Il faut dire quand même que c'est la première fois qu'ils prennent vraiment au sérieux ces élections. Elle est clairement surreprésentée aussi dans des lieux où les écolos ne produisent pas de liste et où on a des sociologies qui sont quand même globalement acquises, hein, donc c'est notamment tout ce qui est sociologie issue de l'immigration et étudiante. Donc là, dans les 20 villes les plus peuplées de France, on y est complètement. Donc c'est quand même une croissance, je trouve, à relativiser un peu. Ce qu'on voit aussi, c'est l'effondrement de Renaissance, en revanche, qui passe vraiment de 17 à 8% des voix dans les 20 plus grosses villes de France. Donc celle-là, c'est vraiment, ça devient ridicule. Et la percée du Rassemblement National, donc qui passe de 7 à 16% des voix, sachant qu'on est vraiment là dans les sociologies les plus les inadaptées au vote Rassemblement National. Donc je trouve qu'il y a beaucoup plus une percée.
Oui, le Rassemblement National, c'était beaucoup le vote un petit peu de la France extérieure, vous savez.
Tout à fait.
Comment j'appelle ça ?
La France périphérique.
La France périphérique, voilà, c'était ce géographe-là qui avait très bien, il avait bien identifié tous ces gens qui sont laissés pour compte. Et là, c'était l'ensemble national, mais c'est pas
un électorat de ville habituellement. Non. Là, de plus en plus, c'est le cas, d'une part, et d'autre part, c'est aussi le RN, un parti qui avait beaucoup de mal à s'imposer lors de scrutins avec une réalité locale, quoi. C'est-à-dire que on pouvait voter RN aux présidentielles ou aux européennes, mais enfin les municipales ou les régionales, typiquement, c'est des élections où le RN fait pas forcément des très bons scores. Et ben là, visiblement, c'est le cas.
C'est-à-dire qu'il commence à avoir des personnalités locales qui se revendiquent RN, ce qui est nouveau.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Et il y a aussi des personnalités du RN qui arrivent à s'implanter localement.
Oui.
Donc à développer un réseau militant, à avoir vraiment une présence locale réelle. C'est quand même tout à fait intéressant. Parce qu'autrefois, c'était pas le cas, quoi. C'était impossible de s'implanter pour eux. Donc, pour refaire un petit point sur la percée de LFI, pour moi, c'est une fausse percée. C'est-à-dire que oui, ils ont davantage de voix, mais enfin, ils sont quand même structurés spécialement pour l'occasion. Habituellement,
Il y a les écolos qui sont effondrés un peu partout, non ?
Ouais, tout à fait. Parce que les écolos, en fait, il y a ce qu'on voit et ce qu'on voit pas. C'est-à-dire que les écolos se sont beaucoup mis avec le PS. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de candidatures avec l'étiquette PS, mais qui inclut quand même les écolos dans la liste. Typiquement à Paris, il n'y a pas de liste écolo, mais parce que la liste écolo a été fusionnée avec la liste PS. Donc il y a cet effet-là parfois qui peut nous faire croire que les écolos sont pas trop là. En fait, ils sont souvent sous l'étiquette PS. C'est beaucoup cela. Donc pour LFI, faut dire que autrefois, ils se percevaient comme un parti vraiment qui était avant tout idéologique et national, pas tellement pour des tambouilles locales. Et ils arrivaient en plus de ça aussi bien à s'entendre avec les élus locaux, qu'ils soient écolos, communistes ou PS. Donc ils n'avaient pas besoin en soi d'avoir des élus. Désormais, ils cherchent à avoir une certaine indépendance par rapport à ce monde-là. Donc ils cherchent à avoir des...
Et avec les élections, les élus, etc., ça leur fait des sous pour leur parti aussi, non?
Ça fait, bah, ça aide, ça fait qu'il y a des gens qui autrefois auraient été peut-être rémunérés par le parti, qui vont pouvoir être rémunérés, bah, par la puissance publique, et puis par conséquent, on va pouvoir rémunérer villes. D'autres gens, voilà, par les villes. Oui, ça aide. Il y a aussi la question, alors je sais pas s'ils auront des difficultés par rapport à cela, mais il y a la question des parrainages pour les élections présidentielles.
Ah oui, il faut avoir des élus.
Il faut avoir 500 parrainages, donc c'est important d'en avoir. Même Marine Le Pen, on se souvient, en 2022, avait eu quelques difficultés avec cette question-là, donc c'est absolument primordial comme question.
Et Asselineau n'a jamais réussi à les avoir.
Asselineau, non, je crois qu'il a jamais réussi à les avoir jusqu'au bout, sauf peut-être en 2017, j'ai un doute. Je sais plus s'il avait réussi ou pas. Donc, il réalise LFI un bon score dans le nord-est parisien, en banlieue, mais pas encore partout. C'est-à-dire que, typiquement, si on prend la ville de Villeneuve-Saint-Georges, le maire LR se maintient. LFI réalise 15% de moins qu'aux législatives de 2024, avec un score de 12% des voix, 11,5 même. Le député, d'ailleurs, Louis Boyard, de ce qu'on l'a n'avait pas accepté de mener la liste, donc je pense qu'il avait un petit peu senti venir la débâcle. Au global, LFI n'arrive en tête que dans 5 villes, à savoir Saint-Denis, Saint-Paul, Roubaix, La Courneuve et Saint-Fons. Et en contraste, les Républicains, par exemple, arrivent premier dans 133 villes, le PS arrive premier dans 80, le RN dans 59 villes, le PCF dans 38 villes, l'UDI dans 22 villes.
Il y a 38 villes sous pavillon communiste.
Oui, tout à fait. C'est, mais d'ailleurs, est-ce que vous saviez que le PCF est le parti qui compte le plus d'élus en France? Parce qu'ils sont partout. En fait, ils sont absolument partout. Ils ont des élus locaux absolument partout dans les conseils municipaux. Donc, ça fait que c'est le parti politique qui a le plus d'élus en France. C'est un truc complètement dingue. L'UDI même est arrivé premier dans 22 villes, Horizon dans 20 villes, les Écolos dans 9 villes, même l'UDR, donc petit parti quand même créé récemment et qui a présenté assez peu de listes, est arrivé en tête dans 4 villes, à savoir Nice, Savigny-sur-Orge, où le type a carrément été élu, Crépy en Valois et Puget-sur-Argent, où le candidat UDR a aussi été élu. Donc
Puget-sur-Argent, je sais pas où c'est, mais c'est un joli nom.
Oui, tout à fait. Je suis pas sûr de savoir. Je crois que c'est dans le sud, hein, Puget-sur-Argent. Mais je suis pas sûr à 100%. Enfin voilà. Par rapport à tout cela, je trouve que ça relativise quand même la fameuse percée de LFI que tout le monde voit. Qu'est-ce que vous en pensez?
Vous savez, moi, j'ai toujours eu beaucoup de mal à comprendre pourquoi il y avait, mettons, 10 à 15% de la population, qui votent à l'évidence pour des imbécilités, quoi. C'est extrêmement difficile d'expliquer rationnellement l'irrationalité. Oui, c'est. Alors, je regarde ces gars-là, j'écoute ce qu'ils disent, et je me dis, mais qui peut croire ces bêtises? À mon avis, pas grand monde. Donc, je me demande si LFI, c'est pas une espèce de vote, un peu comme l'était le vote de Le Pen. Mais pour la gauche, mm-hmm. une partie de la gauche qui dit tous ces gars-là, les Glucksmann et tout, ils pensent qu'à être... Vous savez ce qu'on disait autrefois, que les radicaux, ils étaient comme les radis, rouges à l'intérieur, rouge à l'extérieur, blanc à l'intérieur et près de l'assiette au beurre, quoi. C'était... il doit y avoir une partie de la gauche qui doit se sentir presque... déçu, écœuré par la gauche actuelle,
ah oui,
la gauche de gouvernement.
Ouais,
et donc,
ouais.
Donc ils voteraient pour n'importe quel crétin. Et ben, y a des crétins de choix, donc ils votent pour eux. Quoi. C'est,
oui, complètement.
Parce qu'on me dit que Mélenchon est idiot, mais chaque fois que vous entendez parler Mélenchon, bon, il fait des références historiques, c'est-à-dire qu'il a lu la guerre des Michards. Quoi, où, c'est bien, mais quand vous écoutez Mélenchon... vous ne pouvez pas vous empêcher qu'il est fondamentalement complètement idiot. Tout ce qu'il dit ne fait ni queue ni tête. Quoi. C'est, mais il l'affirme avec suffisamment de force pour que vous croyez, vous voyez, c'est un monsieur qui parle fort. Bon, c'est un monsieur qui parle fort, mais il est bête comme un nain de Kirk.
Ah oui, il dit plein de choses idiotes, mais avec beaucoup d'aplomb.
Beaucoup d'aplomb et avec des références historiques.
Voilà, exactement.
On dit, je ne suis pas le seul à avoir été con dans l'histoire de France, mais c'est intéressant comme idée, mais enfin, je trouve pas que ce soit très entraînant, quand même.
Ouais, non, il a dit tout un tas de conneries, quand même. Et
il en a écrit aussi.
Il en a écrit et il en
invente. Il a pas fait que le dire. Hein.
Il en invente des nouvelles tous les week-ends.
Donc, tu vois, ça, il a un côté battleur d'estrade, Tribu, vous savez, la fonction tribunicienne de dire aux gens des trucs horribles, et comme ça, ça vous êtes élu tribun de la plèbe, comme à Rome. Mais moi, personnellement, j'ai rencontré des gens de gauche qui étaient intelligents, mais je peux pas dire que j'écoute Mélenchon, je le trouve historiquement idiot. Il a rien appris de l'histoire.
Oui, je suis assez d'accord. Et puis parfois.
Donc les journalistes n'arrêtent pas de dire que c'est lui qui est le meilleur orateur et tout.
Oui. Oui, et parfois il décide de faire des sujets complètement lunaires. Il y a 2 ou 3 ans, il avait fait une conférence entière sur l'énergie des océans dans laquelle il disait absolument n'importe quoi. Pareil, il répand des mensonges absolus sur l'énergie nucléaire. Enfin bref, c'est.
Mais je te dis, il est pas. Quel que soit
le sujet, il est capable d'être d'une mauvaise foi, mais absolue, mais sans aucun égal. Et donc oui, c'est un peu à un certain degré une espèce de vote Le Pen à l'envers.
C'est le Le Pen de la gauche.
Oui.
D'ailleurs, il est en train petit à petit de rendre son parti inéligible aussi.
Oui.
À force de dire des trucs invraisemblables.
Oui, tout à fait. Alors là, j'ai une infographie qui montre l'évolution de l'opinion de Jean-Luc Mélenchon, donc qui part de mars 2016 jusqu'à aujourd'hui. Et c'est avec le baromètre politique Elabe. Et alors, à chaque fois, ce que ça montre, c'est que lors des élections présidentielles, il est souvent un petit peu plus populaire qu'auparavant. Mais enfin, on a quand même une espèce de grande tendance qui montre qu'il a une impopularité croissante depuis 10 ans, et particulièrement depuis 2022, où il multiplie les frasques. Là, dernièrement, ce qu'il a fait sur l'affaire Quentin, c'est quand même assez exceptionnel. C'est-à-dire que même les élus LFI étaient quand même assez gênés de ce qui s'était passé. C'est-à-dire qu'il y a quand même... voilà, et lui il a rassuré tout le monde en disant non c'est vraiment très bien,
c'était un vrai petit nazillon,
voilà, exactement, donc il l'avait bien mérité.
Je voudrais arrêter quelque chose, même si c'était un petit nazillon, le gamin avait 22 ans ou je sais pas quel âge.
Oui, 23,
c'était, il était très jeune. C'est pas parce qu'un type pense politiquement de façon tout à fait, je sais même pas ce qu'il pensait, le gamin, mais en admettant même qu'il ait été qu'il ait pensé très mal, ce qui à mon avis n'était pas le cas, c'est pas pour ça que vous devez le tuer.
Oui, eux, pardon.
C'est pas parce que, admettons que c'était un nazi, ben c'est pas pour ça qu'on a le droit de le tuer à coup de pied.
Non, mais eux partent de ce principe-là. C'est
donc,
exactement...
c'est-à-dire que le LFI a le droit de me tuer parce que si le LFI décide que je suis un nazi, à ce moment-là, je suis condamné à mort ipso facto.
Oui. Complètement. C'est un peu le fonctionnement d'une
c'est le comité,
mais politique.
C'est le comité de salut public, quoi.
Ouais.
Complètement. Donc, c'est Fouquier-Tinville qui tuait les gens simplement parce qu'ils étaient passés devant le tribunal.
Mais d'ailleurs, ils assument totalement cette référence robespierriste et antifasciste. Ils disent voilà, les nazis étant des nazis, il faut bien les tuer. On va pas jouer au jeu démocratique avec eux. Donc, il faut les tuer. Et ensuite, il faut tuer tous ceux qui sont suspects d'être à peu près pareil ou de pouvoir dévier dans ce sens-là. Donc, à chaque fois, on est pur sans cesse, quoi. C'est toujours le même fonctionnement, effectivement. Donc désormais, je considère que à partir du moment où ils estiment que quelqu'un est fasciste, c'est un appel au meurtre.
Ben, d'ailleurs, ils en font pas. C'est pas eux qui avaient donné aussi les noms d'un certain nombre de personnalités de droite et leur adresse pour être sûr qu'on allait bien les flinguer, quoi.
Oui, alors ça, c'est des méthodes qui sont de plus en plus répandues, effectivement, dans...
Donc, ce que ça revient à dire, si vous voulez, c'est qu'on a donc une espèce de... Alors, le LFI, qu'est-ce que c'est? C'est donc apparemment des étudiants un peu cons, en sociologie, qui termineront chez McDonald's, allez. Et puis, une partie de la population immigrée. Mais c'est même pas certain que soit la totale. Je suis sûr qu'il y a des tas d'immigrés qui votent tout à fait convenablement. Donc vous avez une...
Et puis, pardon, je vous coupe, mais l'immigration, les gens issus de l'immigration, statistiquement, votent moins que les étudiants, typiquement. Donc je pense que, typiquement, dans ce genre d'élections, des municipales, c'est surtout le vote jeune étudiant qui fait ces scores-là. Ouais.
Donc, après avoir suivi les cours d'une école qui leur a rien appris... Ils savent tout et donc ils peuvent foutre en l'air le système. Bon. Bon, le LFI, c'est quand même un drôle d'assemblage. Et dont on se demande exactement ce qu'ils veulent. Donc, encore une fois, je reviens à la même chose. Toutes ces élections, c'est des élections pour des gens. Ce serait bien si on est les, si les Français pouvaient voter sur des projets. C'est-à-dire, si à la place d'élire M. Mélenchon, on votait directement sur les propositions de M. Mélenchon, et, qui est en d'autres termes un référendum. Je crois que le temps est passé de voter pour des gens ou des partis. Il va falloir maintenant que les Français se mettent à réclamer de voter sur les projets qui les concernent. Mmh. Quoi. Mmh. Pour moi, c'est essentiel parce que la démocratie représentative, quand je vois des gens comme ça dire qu'ils sont représentants du peuple, comment elle s'appelle la grosse qui est à l'Assemblée avec son écharpe tricolore, là, celle qui ressemble à une poissonnière là.
Vous parlez peut-être de Mathilde Panot en des termes très péjoratifs.
Non, mais c'est ça, une grosse avec une grosse. Quand je la vois avec son écharpe comme ça, j'ai un peu honte, quoi. Je me dis quand même, j'ai un peu honte que cette personne-là me représente, qu'elle ait le drapeau français sur le ventre, qu'elle ne cesse de conspuer et de conchier, comme aurait dit l'autre. Donc, si vous voulez, il me semble qu'il est temps d'arrêter de voter pour des personnes, parce que ça mène. Ceux qui, dans le fond, ont envie qu'on vote pour eux, c'est des gars qui n'ont pas été SMS par leur maman, en général, quoi.
Oui, alors, il y a de ça. Il y a une vraie corrélation entre la perception d'une enfance malheureuse et le vote de gauche.
Oui.
C'est d'ailleurs, en fait, souvent, c'est des gens qui essayent de fuir absolument le monde dans lequel ils ont grandi, alors que peut-être que les gens de droite, c'est l'inverse. Eux, ils veulent peut-être revenir au monde qu'ils ont connu lorsqu'ils étaient enfants.
Oui, je sais pas, mais en tout cas, les gens de droite, enfin, dans ma connaissance, enfin, acceptent assez facilement les opinions des autres. Ils disent, bon, ton opinion. Parce que moi, j'ai remarqué que la gauche, depuis dans ma vie, est devenue de plus en plus réfractaire à écouter ceux qui n'étaient pas d'accord avec elle.
Oui.
C'est très curieux, quoi. C'est-à-dire que quand j'avais 20 ans, 25 ans, je partageais déjà les idées qui sont les miennes aujourd'hui, si vous voulez. Pas changé. J'ai honte, d'ailleurs. Et je suis resté toujours au même endroit. Et par contre, c'est que je pouvais discuter avec des tant de gens de gauche quand j'étais à l'université. On se mettait sur la gueule avec beaucoup d'entrain, mais moralement, si j'ose dire. Aujourd'hui, la plupart des gens de gauche n'acceptent pas que je parle en public, par exemple. Quoi. On l'a vu avec Zemmour, etc. Ils sont bloqués de.
Et encore, parfois, c'est pas que avec Zemmour, etc. C'est même des personnalités de centre-gauche sont vues comme trop à droite. Pour pouvoir mettre les pieds dans une université, quoi.
C'est-à-dire qu'il ne devrait jamais y avoir de réunion publique, politique dans une université.
Ouais.
Que quelqu'un vienne, qu'un grand savant vienne faire une conférence à l'université de Toulouse, ça ne me gênait pas. Mais que le Parti communiste vienne une conférence à l'université de Toulouse, il était hors de question.
Ouais. Non, mais ils vivent vraiment dans leur monde. C'est un monde très particulier, hein, ce monde militant, particulièrement qui tourne autour de l'université. C'est des gens qui ont beaucoup de temps à perdre. Déjà, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de discussions, de débats avec des gens qui pensent différemment. Donc, ils s'entretiennent vraiment dans
et ils savent rien. Ils écrivent une page, ils font 50 fautes d'orthographe, quoi.
Oui.
En principe, les types de gauche à l'université autrefois, les Sartre, etc., il y en avait un certain nombre qui avaient fait normal sup, ils faisaient pas de faute d'orthographe, comme moi.
Oui, non, nous avons connu ce phénomène des crétins diplômés. Nous,
donc, voilà, ben, ça, voilà, y a
l'inflation du diplôme.
Voilà, c'est pour résoudre. Ah là là, c'est ce que disait ce brave Milley, il disait. Ben, le problème, c'est que si vous donnez les diplômes gratuitement, ça vaut à peu près autant que de la monnaie, que de l'argent que vous imprimez, quoi.
Oui.
Ça vaut rien.
Oui, c'est ce qu'on a choisi de faire. Et d'ailleurs, c'est souvent des gens qui multiplient les années dans des diplômes qui servent à rien.
Des gens qui ont 2, 3, 4 masters.
Oui, ou qui redoublent pendant je sais pas combien de temps, qui sont en licence de langue ou en licence d'art de je ne sais quoi, des trucs qui servent à rien.
Quand j'étais à Toulouse, je raconte des histoires, mais il y avait un. C'est le rugby, c'est sérieux à Toulouse. Donc, il y avait la faculté de médecine qui jouait toujours contre la faculté des sciences. Et c'était un match de rugby, si vous voulez, où il y avait à peu près que des internationaux, quoi. Parce que ils étaient tous dans l'équipe de France, mais c'était un match vraiment où il fallait pas perdre. Hein. Et donc, ils avaient à la faculté de médecine un type qui présentait pour la 7e fois sa première année.
Ah oui.
Mais il faisait 1m90, il faisait 140 kilos, donc si vous voulez, on savait, on le faisait jouer deuxième ligne, mais il était à la faculté de médecine juste pour jouer les matchs de rugby contre la faculté des sciences, quoi.
Ouais.
Ben, il doit y en avoir un paquet d'aujourd'hui, les gars.
Ah, mais il y en a un paquet comme ça qui sont en première année, qui ont 25 ans, qui sont encore en première ou en deuxième année, mais qui veulent absolument bénéficier du statut d'étudiant pour.
En attendant que le RA, je sais pas quoi, le paiement que vous avez à partir de 25 ans, là.
Ah oui, bah c'est les réductions, les cartes jeunes.
Non, non, vous savez, le paiement où vous êtes payé à ne rien foutre, ça s'appelle le.
Ah oui, le RSA, oui.
Le RSA, je crois qu'on ne peut pas le toucher avant 25 ans.
Ah oui, ça je sais plus, j'ai jamais essayé de le
percevoir. Ils attendent d'avoir 25 ans et ils passent de l'université au RSA.
Oui, oui, mais c'est vraiment ça. Hein. Et en attendant, ils ont les repas du CROUS, etc.
Mais qui sont pas bons et qui devraient être moins chers.
Oui, qui sont pas très bons, effectivement. Enfin, voilà. Comment dire, le LFI a vraiment pas mal de difficultés au final dans plein de villes, y compris des villes dans lesquelles ils ont
LFI, c'est devenu le parti des gars qui ont un QI de 80, quoi.
Oui, alors c'est vraiment.
C'est ça, non?
C'est vraiment cette sociologie étudiante. Je saurais pas dire s'ils ont un QI de 80, mais c'est clair qu'ils ont des logiques de groupe, des logiques sectaires. C'est pas forcément les plus intelligents, mais c'est pas forcément les plus bêtes non plus. Hein, je veux dire d'un point de vue social, ils sont pas forcément toujours très en bas. Mais on a, cela dit, un énorme rift entre les diplômes qui servent à quelque chose et les diplômes qui servent à rien. Ça, c'est ce qu'on voit dans toutes les enquêtes d'opinion, c'est-à-dire que la gauche radicale concentre beaucoup de gens très diplômés, mais avec des revenus assez bas.
Ouais.
Et ça, c'est
les licences de sociologie chez McDonald's.
Ça, c'est un phénomène tout à fait observé.
Ouais, ben c'est tout à fait conforme à ce que disait Schumpeter, c'est que le capitalisme faisait monter les dépenses dans l'éducation et que du coup, on avait plein de diplômés qui servaient à rien, qui étaient très amers et qui du coup... tuer le capitalisme.
Ouais, exactement. Donc voilà, pour ces élections municipales, on a fait un petit peu le tour. Alors, maintenant que ces élections municipales arrivent à leur fin, il n'y aura pas, je pense, énormément de surprises lors de second tour.
Sauf une hausse de la participation.
Sauf s'il y a une hausse de la participation, à ce moment-là, tout est permis. Si en revanche, il y a une stagnation, voire une baisse de la participation, je pense qu'il n'y aura pas particulièrement de surprises. Assez bonne percée du RN, percée véritable, mais...
C'est pas une percée, mais ils s'établissent localement. C'est ça. Oui. Ils sortent de leur espèce de ghetto où ils étaient et ils semblent se diffuser un peu plus largement dans la France. Quoi.
C'est ça. Ce qui est nécessaire pour.
Si vous voulez devenir un parti du gouvernement, c'est indispensable.
Voilà, on peut pas juste tout gouverner depuis Paris. C'est pas possible. Il faut avoir des bases un petit peu partout. Ça montre aussi un certain succès des municipalités RN puisque j'ai l'impression que
les gens les réélisent.
Dès qu'une ville a un maire RN, ensuite il est réélu triomphalement, soit dès le premier tour, soit avec beaucoup de facilité. Non, mais on l'a vu absolument partout.
On l'a vu à Beaucaire, où il a été réélu en premier tour aussi.
À Beaucaire, à Fréjus, j'avais une petite liste, je vais essayer de la retrouver. C'est ça, elle passe dès le premier tour à Cagnes-sur-Mer, à Hénin-Beaumont, à Fréjus, Perpignan, Béziers. Alors, Béziers, c'est Robert Ménard, il n'est pas RN, mais enfin, c'est pas
loin. Ils avaient mis un RN contre lui, il était fou d'ailleurs.
Oui, je crois qu'il a fait 8%. Le Perreux, à Savigny-sur-Marne, on peut citer aussi Marle-les-Mines, Oudin, Loison-sur-Lens, Arnes, Saint-Savin, Camaret-sur-Aigue, Morières-les-Avignon, Vauvert, Marignane. Enfin bref, voilà, il y a évidemment aussi.
Morières-les-Avignon était gouverné par un RN.
Il y a aussi Hénin-Beaumont, évidemment, Steve Briouat qui a fait 77%, Louis Alliot 50,5% à Perpignan, David Racheline à Fréjus, Nelson Chaudon à Beaucaire, Romain Lopez à Moissac, Joris Ebrard au Pontet, Fabien Engelmann à Hayange.
Je le connais, le maire du Pontet, c'est juste à côté de chez moi.
Et Ludovic Pajot à Bruay-la-Buissière.
Au Pontet, c'est un gars, il était député, puis il a fallu qu'il choisisse entre député et maire, et il a choisi maire parce qu'il trouvait que c'était beaucoup mieux.
Eh ben oui, il y en a qui préfèrent. Hein. Si vous êtes implanté localement, c'est plus logique, puisque désormais, en fait, vous êtes député, mais c'est normal.
C'est un kinésie, vous savez, il y a Moussani à la maison quand... Ouais. Ma chère épouse qui a eu un problème à un moment, c'est lui qui venait, quoi. Il était sympa.
Ouais, d'accord.
Très très sympa. Mais ce qui est rigolo, c'est que là, au Pontet, ils ont fait une très grande mosquée turque. Il est allé l'inaugurer, alors les gens galèrent en disant, mais qu'est-ce que t'as besoin d'aller l'inaugurer? Il dit, ils ont voté pour moi, je vois pas pourquoi j'irais pas voter.
D'accord. Donc il y a un phénomène de vote turc au Pontet en faveur du Rassemblement National, d'accord.
C'est exactement ça.
Ok. Bah, tout à fait original, mais pourquoi pas.
Les Turcs, ils votent peut-être contre les Arabes, mais on sait jamais, hein. C'est alors, compliqué la vie.
Alors il y a en vrai pas de communautarisme. Enfin,
en Allemagne, il y en a un de communautarisme turc.
Il y a des communautarismes surtout nationalité par nationalité. Ouais. C'est-à-dire il y a du communautarisme algérien, marocain, turc évidemment, mais il y a pas tellement d'uniformité globale de tout le vote forcément musulman arabo musulman. C'est surtout dans ces petites élections là où il y a des enjeux locaux. Ça peut être très divisé. Donc oui, il peut y avoir ce genre de phénomène-là. Ouais, complètement. Okay. Donc bref, le RN arrive très bien. Visiblement, ils font un bon boulot au niveau municipal. C'est tant mieux. Et derrière, bah forcément, à la suite de ces élections, on va arriver directement dans un tempo un peu présidentiel, puisque ça arrive l'an prochain, si tout se passe bien, en tout cas.
Donc, j'espère qu'il y aura des élections.
Oui, j'espère qu'il y aura des élections aussi.
Parce que si on peut plus se déplacer en voiture, parce qu'il n'y a plus d'essence.
Oui, alors ça,
ça va pas faciliter les élections. Ça
va pas faciliter les élections, tout à fait. Donc il faut que le détroit d'Ormuz soit relâché d'ici là. J'espère qu'il le sera. Et même
s'il l'est pas, on va en parler, hein, souvent.
Oui, bah, à mon avis, cela dit, s'il l'est pas, à mon avis, tout le monde va voter avec des fourches, hein, parce que
on va voter.
Ils vont faire 40 km à pied les types, mais ils vont le faire. Hein.
Sortez les sortants. À ce moment-là, ça va être très bien.
Oui, tout à fait. Donc voilà pour cette émission de compte rendu d'élection. Ça faisait d'ailleurs assez longtemps, je crois, qu'on n'avait pas parlé de la France. Faut dire qu'il se passe pas grand chose de bien intéressant dans notre pays depuis quelques mois. C'est beaucoup plus à l'international qu'il se passe des choses en dehors de notre précaré. Mais bon, quand il y a des élections quand même, on en parle, hein, c'est normal. Je suis pas sûr d'ailleurs qu'on fasse un débrief du second tour, parce que s'il y a pas de surprise, il y a pas de surprise. Mais enfin, on sait jamais. Sur ce, je vous laisse. J'espère que vous aurez apprécié cette émission, ce débrief des élections municipales du premier tour. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur l'Institut des Libertés,
merci aussi beaucoup.
Sur l'Université de l'Épargne, si jamais ça vous intéresse.